Les balados de l'AQPER, l'association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Aujourd'hui, je suis avec Martine Châtelain. Bonjour Martine.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec toi pour parler d'éducation à l'environnement pour les enfants et notamment plutôt dans un cadre, ce qui se passe dans le cadre familial. Je vais essayer de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours en éducation à l'environnement.
Alors, moi, j'ai enseigné 35 ans à la maternelle. Alors, la maternelle, 5 ans, en Montérégie, principalement à la Prairie et Ville-Sainte-Catherine, Candiac aussi. À titre d'enseignante, j'ai été responsable de mon école pour les écoles vertes Brundtland. Et après, pour mon syndicat, j'ai pris en charge le mouvement des écoles vertes Brundtland dans mon syndicat. Et à ce titre-là aussi, j'ai siégé au comité environnement de ma commission scolaire. Je me suis impliquée beaucoup dans le mouvement EVB. J'y suis encore. Maintenant, ça s'appelle le mouvement ACT et je fais partie du comité des retraités actifs, le CRAC, de la CSQ. À ce titre-là, j'ai eu la chance de développer plusieurs trousses pédagogiques. Bon, la principale, ma dernière, mon petit bébé, ça s'appelle « La nature et moi ». Ça s'adresse aux enfants d'environ de 0 à 5 ans, plus peut-être pour les 3 à 5 ans. Ça propose 52 activités nature selon les 4 saisons pour sortir avec les enfants. Et c'est en ligne complètement gratuitement sur le site de la Fondation Monique Fitzbach. Et ça s'appelle « La nature et moi ». J'ai été aussi dans le cadre de mes implications à la coalition Au Secours, la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, pendant 17 ans environ, dont 5 ans à la présidence et comme porte-parole. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vu ou entendu ma voix. Et en ce moment, je m'occupe du colloque de l'AQPER, je suis sur le comité organisateur et je suis nouvellement sur le CA de l'Agora des habitants de la Terre, qui est piloté par Ricardo Petrella et qui fait la promotion des biens communs, dont la santé, l'éducation, l'eau et tous les biens communs de l'humanité.
De par ton parcours, tu as vraiment été en lien direct avec l'éducation, l'environnement, directement à l'éducation des enfants, des plus jeunes. Donc, tu as pu mettre en place beaucoup de choses. Donc, tout ça, c'était dans le cadre, on va dire, entre parenthèses, professionnel. Comment ça se passe, l'éducation, l'environnement? Maintenant, en tant que grand-parent, en tant que retraité, comment tu abordes ça avec tes petits-enfants, avec ta famille?
C'est très important pour moi. J'ai deux petits-enfants, un qui vient d'avoir 6 ans et l'autre qui vient d'avoir 3 ans. Et c'est mon champ d'action, c'était beaucoup le préscolaire. Alors là, moi, je m'amuse comme une petite folle. Alors, je suis retraitée depuis qu'ils sont nés, parce que ça fait 7 ans que je suis retraitée et le plus vieux à 6 ans. Puis en temps de pandémie, il y a eu aussi la fermeture des garderies et la fermeture des écoles un temps. Alors, j'ai eu la charge de la garde de mes petits-enfants. Il faut dire qu'on habite, on a une situation un peu idéale. On habite un au-dessus de l'autre dans un duplex. Donc, je leur marche sur la tête et non le contraire, ce qui est très bien. Moi, j'ai l'expérience de ma propre enfance. Alors, je vais te retourner très loin pour arriver à mes petits-enfants.
D'accord.
C'est que j'ai eu la chance, je suis urbaine, j'ai été élevée à Montréal, par contre, tout près du Mont-Royal, donc avec des grands parcs et le grand parc du Mont-Royal qui était un peu un grand terrain de jeu pour nous quand on était petits. Donc, dans un endroit très urbain, mais en même temps avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, je me rappelle avoir rencontré un raton laveur sur le balcon en arrière dans un arbre chez nous. Alors, il y avait plein d'écureuils que je nourrissais et que ma mère était complètement désespérée parce que je nourrissais les écureuils et qu'ils ne voulaient pas les écureuils dans la maison et ni dans le toit parce qu'ils se promenaient dans l'entretoit. Alors, j'ai été élevée à Montréal, mais j'ai eu la chance d'avoir un chalet familial au bord d'un lac, dans la forêt des Hautes-Laurentides, avec les montagnes alentour. Donc, de passer tous mes étés avec mes grands-parents et mes parents. sur le bord de l'eau. Donc, l'accès à de l'eau, de la verdure, des animaux sauvages, il y a des chevreuils, il y a des lièvres, la nature, cueillir des framboises, cueillir des fraises, se baigner dans le lac, jouer dans le sable, qui était un plaisir fou. Alors, j'ai eu cette chance-là et d'être accompagnée par des adultes, effectivement, mes grands-parents, qui avaient beaucoup plus de temps que mes parents. Donc, je passais la semaine avec mes grands-parents et je les suivais partout. Donc, si mon grand-père coupait du bois, ben, j'étais assise sur une bûche et je le regardais couper du bois. Ma grand-mère nous amenait, c'est ça, aux framboises, aux fraises et on faisait de la cuisine. Ensuite, avec les petits fruits, la confiture, les tartes, les pâtés. Alors, j'ai vraiment profité de ça et pour moi, ça a été toute l'ouverture à la nature, voir les papillons, voir les petits insectes, compter les fourmis, voir les couleuvres, les grenouilles, les crapauds. Alors, c'était les oiseaux qui sont nombreux ici. Il y avait des chauves-souris quand j'étais petite, qui étaient un animal très intriguant pour nous, qui se cachaient le jour derrière les persiennes. Donc, on les voyait au repos, on pouvait les observer. J'en ai même touché, ce qui n'est pas recommandé parce que ça peut mordre, mais j'avais l'impression que les ailes étaient en plastique, c'était un peu irréel. J'ai déjà ramené un mulot à la maison au grand désespoir de ma mère et puis je l'ai mis dans une boîte en carton sur le balcon pour m'apercevoir que le lendemain, il avait creusé un grand trou et il s'était sauvé. Alors, c'est des expériences assez extraordinaires qui ont fait que j'ai une grande curiosité, un grand intérêt pour la nature que j'essaie de transmettre à mes deux cocos qui bénéficient aussi maintenant du même chalet familial de quand j'étais petite. Alors, ils peuvent venir aussi, donc l'eau, apprendre à nager, apprendre à vivre au bord de l'eau, c'est-à-dire pas se mouiller quand on est habillé et puis nager quand on est en maillot, travailler le sable, faire des châteaux de sable, voir que quand c'est mouillé, ben, ça colle, quand c'est pas mouillé, ça colle pas. Et c'est ça, observer la nature, observer et apprendre aussi à connaître. Si on a un oiseau qu'on ne connaît pas, ben on a les livres ici pour retrouver les espèces d'oiseaux. Alors, c'est très bien comme apprentissage. Je te dirais que pendant la pandémie, avec Louis, avec le plus vieux, on s'est mis avec Québec Oiseaux en ville. On s'assoyait sur le balcon et on regardait ce qu'on voyait comme oiseaux. On comptait trois pigeons, quatre parulines. On comptait les oiseaux en ville et c'est assez hallucinant de voir combien il y en a. Et on a la chance d'habiter près du fleuve Saint-Laurent, près des berges à Verdun. Et c'est un milieu extraordinaire. Il y a un très beau parc à Ville-la-Salle. Il y a des parcs, le parc en Grignon, le parc des îles, justement, à Ville-la-Salle, le parc des Rapides, près des Rapides de la Chine, qui est un sanctuaire d'oiseaux. Alors, il y a beaucoup de Montréalais qui ne savent pas ça, mais nous, on a la chance d'y aller souvent. Alors, avec mon petit-fils, on comptait aussi les canards, les hérons, même une grande aigrette blanche. On a vu des oiseaux de proie. C'est assez fascinant comment, même en ville, on peut faire ça. Et il a adoré faire ça.
C'est ça, c'est une activité qui, comme par exemple, les gens qui n'ont pas forcément la chance d'habiter à côté d'un espace vert, un endroit privilégié au milieu d'un parc, juste se mettre à la fenêtre et compter les oiseaux, voir les espèces, les identifier avec leurs cris, leurs couleurs. Du coup, ça peut comme être une éducation à l'environnement qui est facile à mettre en place pour une famille et qui demande en fait rien du tout à part une connexion Internet pour faire le compte rendu en fait de ce qu'on a observé.
Oui, puis Québec Oiseaux fournissait des dessins d'oiseaux à colorier. Alors, il a colorié des dessins d'oiseaux avec des descriptions, il y avait des cris d'oiseaux aussi qu'on a pu retrouver sur Internet. Tout ça s'est fait absolument gratuitement. Et effectivement, on ne les voit pas les oiseaux en ville si on n'observe pas. Alors moi, comme grand-parent, je me suis donné comme objectif d'un peu couper ce qu'on appelle la cécité urbaine et puis la surdité urbaine. C'est que quand quand on est occupé, quand on est préoccupé par quelque chose, on va marcher sur la rue avec le but de se rendre quelque part. Et on ne regarde pas ce qu'il y a alentour. On n'est pas attentif. Alors, c'est de redévelopper les sens. Je pense avec mes petits, c'est de leur faire toucher. Entre autres, il y a beaucoup d'escargots. Louis adore le jardinage aussi. Donc, il jardine. On a un petit jardin en ville. On a une toute petite cour, mais on a quand même des fines herbes, des tomates, des poivrons. Ça aussi, on a fait des semis on a même fait pousser, imagine, des citronniers à partir des noyaux de citron.
Oh!
Et ça a poussé. Et sur les trois qui ont poussé, il y en a un qui est en train de se développer, là, qui a un an maintenant. Le citronnier a un an. Donc, il a à peu près, je dirais, quelques centimètres. Là, il peut avoir une dizaine de centimètres déjà, mais c'est un petit citronnier qui a poussé de nos observations de noyaux des fruits qu'on mange à la maison. Donc, développer les sens, c'est-à-dire être capable, quand on observait les oiseaux, ce que je lui disais, c'est « Tu vas observer les oiseaux avec tes oreilles. » Il me disait « Ben non, mamie, avec mes yeux. » Et là, il y avait ses jumelles pour observer les oiseaux. J'ai dit « Oui, avec tes yeux, mais avec tes oreilles. » Il dit « Comment on peut observer les oiseaux avec les oreilles? » J'ai dit « Parce que tu vas les entendre avant de les voir. » Ce qui est souvent vrai. On va entendre les oiseaux et là, les yeux vont chercher. Alors, j'ai dit, tu vas apprendre à reconnaître d'où vient le son. Et on a fait des jeux pour apprendre à reconnaître d'où venaient les sons. Et on a fait ça dans la maison avec différentes choses qui font du bruit. J'avais un maracas et puis des sifflets, des choses comme ça. J'avais aussi les petits oiseaux du bon qui sont des peluches qui font le bruit de l'oiseau. Alors ça, c'était déjà très intéressant pour lui d'entendre, avant même d'avoir vu un vrai carouge à épaulettes, il avait vu la peluche carouge à épaulettes qui fait le bruit. On les trouve dans les musées nature de Montréal. Là,
Qu'il avait comme déjà une première visualisation de à quoi ressemblait l'oiseau pour être capable ensuite de l'identifier quand il le verrait en vrai, en fait.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des affiches et des livres d'identification. Moi, comme enseignante, j'avais des affiches avec tous les oiseaux du Québec. Et ça, c'est très important parce qu'il peut dire, j'ai vu celui-là sans savoir le nom au départ. Et là, je lui dis, ah, tu as vu le merle d'Amérique. Puis là, il apprend le nom tranquillement, sans que ça soit un apprentissage. Forcé. Et lui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était comme ça, des listes. Entre autres, il voulait savoir les noms des poissons. J'avais eu une affiche par une association de pêcheurs et il regardait les poissons et puis il voulait savoir le nom des poissons. Celui-là, il a une épine sur le dos, il s'appelle comment? Celui-là, il a des dents, comment il s'appelle? Et puis, bon, c'est des choses qui les intéressent, qui les fascinent. Je me rappelle aussi les roches, ramasser des roches. Et c'est de voir les choses de la nature quand on passe à côté sans passer tout droit, en fin de compte. Donc, le retour à toucher l'écorce d'un arbre, voir qu'une des écorces est lisse, l'autre écorce est rugueuse, une qui est très prononcée, voir les couleurs aussi, les bouleaux c'est blanc, d'autres arbres sont gris, d'autres sont plutôt bruns. Alors on observe ces choses-là, les feuilles des arbres qui sont très variées, les samares, tous les fruits des arbres, les cocottes, les cônes, les samares, tout ce qu'on peut trouver en ville. Il y en a beaucoup en ville, on a la chance à Montréal d'avoir quand même beaucoup d'arbres urbains. Il y a beaucoup aussi, de plus en plus de gens qui plantent des jardins ou qui, en façade de maison, n'ont plus de gazon, ont des vivaces. Donc, beaucoup de fleurs, beaucoup, beaucoup d'insectes. Donc, bon, les escargots chez nous, je sais pas, à Verdun, il doit avoir eu une pluie d'escargots parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, il s'est fait un petit vivarium avec des escargots. Et la petite, elle, bon, lui est rendu à l'âge où c'est important de connaître, c'est-à-dire de pouvoir nommer les choses, de pouvoir comparer les choses dans ses observations à 6 ans. Bon, il a fait sa maternelle cette année, donc il entre en première année. Donc, toute cette période, je dirais, du 4 à 6, est beaucoup dirigée vers nommer les choses et puis les découvrir et les nommer. Mais la petite, elle est carrément dans l'observation.
Oui, c'est pas la même approche, du coup, avec l'âge,
Non.
c'est complètement différent.
C'est complètement différent parce que la petite, elle est à s'immerger. Moi, j'appelle ça faire ses racines. Moi, je compare l'éducation à l'environnement à un arbre. Alors, je vais t'expliquer ça très simplement. Pour moi, on doit créer des racines dans notre environnement et ces racines-là se créent de 0 à 5 ans. C'est comme ça qu'on aborde l'environnement. On se crée des liens avec cet environnement-là en faisant des choses très simples. Jouer dans la neige, jouer dans le sable, marcher pieds nus dans l'herbe, toucher à une fleur, sentir une fleur, vraiment s'immerger, aller dans l'eau, jouer dans les feuilles l'automne quand ça sent si bon, faire des tas de feuilles, rouler sur une petite pente, comment les enfants adorent rouler sur une toute petite pente, nous on la voit presque pas, puis elle s'amusait toute petite, à peine en marchant à peine, à descendre ça parce que ça descendait plus vite. Et elle remontait et elle redescendait, puis c'était son amusement, les trous d'eau. Bon, les trous d'eau avec les bottes de pluie, elle s'amuse comme une folle dans les trous d'eau de la ruelle. Alors, vraiment des choses très, très simples pour créer ce lien avec les choses naturelles. Comme je dis, même en ville, créer ce lien-là avec la nature, mais rien n'est mieux que justement, bon, se baigner dans un lac, là, c'est extraordinaire. Elle adorait, elle était comme la bouche ouverte et elle aimait ça, les mains dans le sable, en train de faire un château de sable, et puis surtout
Ça, ne
les
pas
maquettes.
avoir peur qu'en fait que l'enfant se salisse, en fait, parce que toi, on peut dire il va être tout sale, les vêtements, mais c'est comme c'est une façon d'appréhender. Moi, c'est pareil, j'ai un petit garçon, moi je le laisse patouiller dans la terre, même s'il est dégoûtant à la fin, c'est pas grave, parce qu'au moins il a comme touché la texture de la terre, c'était qu'elle est molle, qui est humide. Dedans, des fois, il y a des insectes, il y a des petites branches. Donc, du coup, c'est. Des fois, il va les mettre dans sa bouche. C'est pas grave. Il va comprendre que c'est pas bon.
Exactement. Puis, oui, ils vont tomber et oui, peut-être qu'ils vont s'écorcher un genou, mais alors, hein, c'est grimper dans les structures naturelles sur une roche ou sur un tronc d'arbre, c'est plus amusant que de grimper au parc dans la structure qu'ils connaissent depuis qu'ils sont nés là, au service de garde. Quand on les laisse marcher dans un boisé et que ça fait crunch, 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 c'est ça la petite, hein, c'est la fascination pour l'eau. Donc, le 0-5 ans, c'est vraiment s'immerger. Puis c'est drôle parce que quand je dis on fait du jardinage avec le grand, elle aussi, elle plante des choses, mais elle a beaucoup plus de plaisir à jouer avec sa truelle dans la terre que de planter réellement. Elle va être contente quand ça va pousser, puis on va dire, oh, c'est ton haricot. Elle va être très, très, très contente, mais elle a moins, c'est plus sensoriel, sensuel, je dirais presque, parce que c'est la sensibilité, tout le plaisir aussi qu'on va avoir. Elle cueille des petites fraises. On a planté des plants de fraises en ville, et ce qui est étonnant, c'est que probablement ça venait de la terre qu'il y avait autour devait contenir beaucoup de petites fraises des champs aussi, parce que ça s'est développé en fraises des champs. Donc, on a une espèce de carré où il y a des fraises des champs, et elle va cueillir ces petites fraises-là. Puis là, c'est de cueillir les bonnes, c'est-à-dire cueillir les rouges, laisser les blanches là, et puis c'est de la voir manger ça. Puis c'est les meilleures fraises qu'elle peut pas manger, là. C'est celles qu'elle a cueillies, et c'est beau de voir cette approche de plaisir. Moi, je pense que c'est important que. Il y a beaucoup de grands psychologues et de grands pédagogues qui disent que les traces dans la mémoire, c'est nos expériences nos expériences sensibles, c'est-à-dire tout ce qui va nous toucher émotivement. Comme tu le disais, ben oui, si c'est fait mal ou si elle s'est fait mal quelque part, ben c'est un très grand apprentissage, elle n'ira plus. Puis comme tu disais, bon, s'ils mangent du sable, c'est pas plus, c'est pas, moi pour moi, c'est moins grave que mettre des jouets en plastique dans la bouche à la garderie que tous les enfants ont manipulé. Alors moi, s'il met une roche dans sa bouche, je vais lui dire non, non, avale pas ça, mets pas ça dans ta bouche. Je vais lui dire, mais j'en ferai pas une maladie parce que je sais que, puis c'est sûr, on les protège pour le soleil. On fait attention, mais une fois, il faut éviter d'être des parents hélicoptères et de surprotéger. Il faut les laisser faire leurs expériences pour que ces expériences-là soient les leurs et soient
qu'elles soient positives aussi, du coup, et qu'ils se les approprient.
Donc, je me dis, bon, dans mon arbre, nous, comme adultes, on est un peu le tuteur de l'arbre. C'est ce qui tient l'arbre pour qu'il pousse droit, mais ce n'est pas nous qui faisons pousser l'arbre, ce n'est pas nous qui faisons le réseau de racines. Il faut juste leur donner des expériences suffisamment riches, suffisamment complètes pour qu'ils apprennent, et puis mettre l'accent sur des choses qui nous émerveille. Si on s'émerveille devant un grand héron, si on s'émerveille devant un coucher de soleil, si on s'émerveille sur qu'un escargot ait réussi à monter dans un arbre, mon petit-fils était complètement subjugué parce qu'il y avait un escargot sur une branche d'arbre très haute. Donc, il s'est dit, mais comment il a monté là? Ben, j'ai dit, il a fait comme toi t'aurais fait, comment t'aurais fait? Il me dit, j'aurais monté par le tronc. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que l'escargot a fait? Il est monté par le tronc, hein? C'est certain. Donc, toutes les expériences, tous les émerveillements et répondre à leurs questions, même quand on ne connaît pas la réponse. On dit, on va chercher ensemble. Donc, chercher ensemble les réponses. Maintenant, on a des outils. Moi, je trouve que l'Internet, on demande tout à Google, puis il va nous répondre. Et puis, il y a des livres d'interprétation qui sont excessivement bien faits. Je pense à certains livres de la maison Ozu, qui ont tous les animaux du Québec, tous les oiseaux du Québec, illustrés, plein de pages, plastifiés. Alors, c'est un outil très facile à traîner avec nous quand on va en excursion. Et tu as les principaux, peut-être une quinzaine des principaux oiseaux que tu risques de rencontrer sur ton chemin, en version plastifiée, donc pas de danger. Il y a les cartes aussi, broquets, les cartes d'interprétation, qui sont comme un peu une carte géographique, où tu as tous les arbres du Québec, tous les oiseaux du Québec, tous les insectes du Québec. Alors, tu en as une par catégorie. C'est des choses, c'est des outils. Peu cher. Je pense que les cartes de chez Broquet sont 9 $ pour une carte où tu as tous les arbres du Québec avec l'arbre avec les feuilles et le fruit de l'arbre à côté et le nom. La même chose pour les sortes d'insectes, de papillons. Donc, c'est merveilleux d'avoir ça pour le plus vieux.
Puis c'est aussi, il faut penser, je t'interromps, mais je pense aussi pour les gens qui ne veulent pas forcément acheter ces choses-là qui sont très bien faites, mais qui ne veulent pas investir ou qui n'ont peut-être pas les moyens, parce qu'il y a des familles qui ont des revenus modestes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toutes les bibliothèques municipales qui sont gratuites, c'est-à-dire il y a juste à faire une inscription et qui ont un matériel pédagogique très intéressant aussi, parce qu'ils ont des livres sur tout et qui sont tous classés par thème. Donc, c'est très facile pour un parent d'aller dans la bibliothèque, de mettre le thème qu'il veut, genre s'il a décidé de faire quelque chose sur les arbres avec son enfant ou si, par exemple, ils vont dans un parc, de choisir un truc sur les arbres et là, il pourra avoir un livre avec les images des arbres pour ensuite, du coup, faire, comme on disait, d'abord identifier genre sur le papier pour après être capable de le faire en temps réel. Donc, c'est une ressource que je cite aussi parce que les gens n'y pensent pas forcément.
Puis ça permet de suivre les intérêts parce que quand je parlais des intérêts, bon, le plus vieux, je vais continuer mon arbre. Donc, quand on s'est imprégné comme les petits dans la nature et par, moi j'appelle ça par les sens et la sensibilité, c'est-à-dire de mettre dans nos mémoires un bagage d'expériences sensorielles, sensibles et émotives, je pense que ça construit notre émerveillement et notre curiosité pour la vie, pour l'environnement. Moi, je pense que c'est vraiment au chalet que j'ai pu développer les intérêts pour la nature et ça m'est resté toute ma vie. C'est quelque chose que j'ai aimé faire avec mes élèves, que j'aime faire avec mes petits-enfants. Quand on arrive au tronc, moi, je dis, on arrive le 6 à 12 ans, le secteur du primaire. Moi, je dis, c'est créer notre écorce solide, se créer un bon tronc. Et comment on fait ça? Ben là, on quitte les sens pour arriver au sens, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui fait un sens. Alors, le plus vieux, quand je dis quand il fait pousser des citrons, ben, c'est de comprendre comment de la graine à l'arbre, on peut les cycles, je dirais, les cycles des saisons, les cycles, comprendre les cycles de vie et de mort d'un animal ou d'un végétal, comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui se font par cycle. Comme je te dis, les catégories, là, mon petit-fils est rendu dans les catégories. Il aime bien faire des catégories de dinosaures, catégories de végétaux, catégories d'animaux. Et il va me dire, ah, ça c'est carnivore, ça c'est herbivore, ça l'intéresse maintenant. Peut-être que ça ne l'intéressait pas il y a un an, mais là, c'est...
Il est plus comme dans la compréhension des choses, en fait, de
c'est
comprendre
ça.
Comment les choses fonctionnent, comment les choses sont interreliées entre elles, en fait, finalement.
Je pense que c'est l'âge des liens, c'est-à-dire qu'ils vont relier toutes les expériences qu'ils ont vécues sensoriellement. Là, ils vont essayer de faire des liens et de se construire une vision du monde. Et cette construction de la vision du monde, c'est ça, ça se fait par l'observation, des essais, des erreurs, des liens concrets, la résolution de problèmes. Comme tu disais, bon, petit, on peut se cogner, mais les plus vieux vont plutôt essayer de contourner un obstacle et de trouver la façon de contourner l'obstacle pour ne pas grimper et se faire mal, comment est-ce que je pourrais faire le tour d'eux, et puis bon, ils vont se trouver ils vont être plus ingénieux. Ce qui a fait dire à mon fils de 6 ans, j'avais beaucoup ri, maman, pourquoi je vais au secondaire, je connais tout. Parce qu'ils ont l'impression, ils sont très solides dans leur construction du monde. Alors je dis là, ça c'est le tronc, il est uni. C'est un seul tronc avec une écorce solide. Et puis, ce qui renforce leur écorce, c'est justement toutes les expériences qu'ils ont vécues. Et ils arrivent à 12 ans, mais là, oupala, il y a des branches. Alors, ça se ramifie. C'est que l'expérience qui semblait unique devient plus complexe et plus ramifiée. Moi, j'appelle ça aller vers l'essence parce que les branches vont vers plus haut, vont vers plus grands, vont vers le ciel, vont vers quelque chose qui nous dépasse. Alors, les 12 ans à l'âge adulte, à nos âges et même à mon âge avancé, je te dirais qu'on est à la recherche de ce réseau de branches-là, c'est-à-dire on sait comment les 12 à 18 ans ont besoin du clan, de l'équipe, c'est qu'ils s'aperçoivent que tout seuls, ils ne peuvent pas grand-chose. Donc, c'est l'âge du collectif. Le 12 à 18 ans, il faut être dans un groupe, il faut faire partie. Puis je me dis, il faut leur donner des bons groupes, comme ça peut être une harmonie musicale, un club de gymnastique, les scouts, les louveteaux, l'équipe de foot, n'importe quelle.
Des associations écologiques, ce genre de choses qui proposent des engagements concrets.
Oui, puis des camps de vacances, des trucs qu'ils vont faire qui sont ensemble et qui vont faire quelque chose de positif ensemble. Parce que sinon, ils vont essayer de se regrouper pour faire des choses moins intéressantes. Okay. C'est l'âge aussi des gangs, hein, des gangs de rue, des gangs
des bêtises, on va dire.
De bêtises. Donc, pourquoi pas leur suggérer des choses positives ou les diriger vers des choses plus positives. Et s'ils l'ont fait petit, ben, il y a plus de chances que ça se fasse comme ça. Puis moi, je dis, dans cet arbre-là, ce qui est important de garder, c'est la sève qui se promène de haut en bas. C'est-à-dire, ça, moi, pour moi, c'est le flux vital. C'est le flux de la vie, le lien qu'on a avec la vie, parce qu'un humain comme un arbre, bien, ça prend de l'air, ça prend de l'eau, ça prend du soleil, ça demande d'être nourri. Donc,
d'alimenter un peu ses connaissances, en fait, ce serait ça, la sève.
Oui, puis garder cette vie-là et se sentir connecté par la vie. C'est-à-dire que si on a des bonnes racines, on va se sentir connecté au monde dans lequel on est. Puis on sait que de nos jours, les enfants sont branchés. Moi, je dis, faut peut-être les débrancher un peu pour les réenraciner dans le monde dans lequel ils vivent. Donc, se créer des racines plutôt que des fils électriques. Parce qu'un fil électrique, ça se débranche, tandis que des racines, ben, ça, oui, ça peut toujours
être un outil électronique, mais ça ne doit pas être comme le moteur principal, en fait.
Oui, je dis qu'on voit souvent la vie à travers un écran maintenant, un écran de téléphone, un écran de télé, un écran d'ordinateur ou de tablette, tandis que quand on est dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le monde sensoriel, la réalité du monde du vivant, quand on s'intéresse aux plantes, aux animaux, aux autres humains, on est dans le vivant, on est dans quelque chose qui va justement alimenter cette sève-là. Puis naturellement, les conditions de base sont les mêmes pour tout le monde. Il faut que l'air soit pur, l'eau soit bonne, la nourriture soit de bonne qualité, sinon on va être malade. Notre arbre va être malade, mais notre petit humain aussi va être malade. Donc, bien manger, apprendre à bien manger, leur donner des bonnes choses, des choses les moins transformées possibles, puis les impliquer là-dedans. Moi, je sais que mon petit-fils, bon, on fait de la limonade, mais on met du citron, de l'eau et du sirop d'érable. Là, c'est pas vraiment une limonade compliquée, mais il adore, il aime mieux ça que d'avoir quelque chose du commerce. Puis dans le fond, sa limonade, c'est un demi-citron, un grand verre d'eau et une cuillerée de sirop d'érable. Ce n'est pas compliqué à faire, hein? c'est pas la recette du siècle. Mais cuisiner, faire de la compote aux pommes, on est allé cueillir des pommes, ben on fait de la compote aux pommes. On est allé cueillir des fraises, ben on apprend comment les préparer, comment les congeler. Et ils adorent ça, ils adorent être impliqués. On va chercher la salade dans le jardin et on prépare une belle salade. C'est des choses, on les implique dans les gestes quotidiens. Puis comme tu dis, ben comme grand-parent, moi j'ai plus le temps. Puis c'est drôle parce que la maman me dit, ben il veut jamais faire ça avec moi. Non, parce que la préparation des repas est pressée. Quand les gens sont pressés, il ne faut pas être pressé. Il
faut prendre le temps, en fait, c'est ça.
Oui, et puis il faut leur laisser faire des expériences. Moi, je l'ai déjà vu faire une expérience de recette avec, qu'est-ce qu'il a mis, mon Dieu, des vieilles feuilles, justement, plus bonnes du jardin, les feuilles étiolées, dans de l'eau avec des crayons feutres.
Imaginez, oh!
Ça donnait toute une mixture, mais il faut les laisser faire aussi ce type d'expérience-là. Et puis là, je lui disais, vas-tu le manger? Il dit, non, jamais.
Ça, il avait conscience que ce qu'il avait préparé n'était pas mangeable.
C'est ça, mais que ça ressemblait à quelque chose. Il disait une soupe. Bon, il avait préparé une soupe. Bon, ben, leur laisser faire ce genre d'expérience-là aussi, leur laisser essayer des choses, c'est important, les expériences. Alors, cet arbre-là, si la sève circule, s'il a toutes les conditions, qu'on l'a mis dans les bonnes conditions, ben, l'arbre, il va avoir des fruits. Et dans le fruit, ben, il y a le noyau ou le germe de ce qui va fournir l'autre arbre. Alors, moi, je dis, je suis un arbre qui a bien poussé. Je suis rendue à l'étape où je peux donner des fruits et puis je peux redonner aux autres ce que j'ai appris.
Ça, tu fais comme la continuité de ce que tu as eu en enfance. Après, tu l'appliques en tant qu'adulte avec tes propres enfants. Puis là, tu le réappliques avec tes petits-enfants en espérant qu'eux-mêmes vont comme refaire le cycle, en fait.
Oui, puis je pense que c'est important que nos passions, quand je te disais les oiseaux, c'est un peu ma passion. Ça se transmet. Les élèves à la maternelle, on faisait un petit peu d'ornithologie à la maternelle et puis on sortait faire des excursions, aller voir les oiseaux dans le milieu de mon école et j'amenais toujours des parents. Puis le parent disait « Oh, regarde, il y a un rouge-gorge! » Puis le petit garçon disait « Mais non, papa, c'est un merle d'Amérique, ça! » Alors, c'est amusant de voir que puis les parents étaient surpris de voir que les enfants qui sortaient connaissaient des noms d'oiseaux. Mais moi, j'ai enseigné à Ville-Sainte-Catherine, sur le bord du Saint-Laurent. Il y a des carouges à épaulettes, à ne plus savoir quoi en faire. Et tous les enfants connaissaient le carouge à épaulettes et aucun parent ne savait le nom du carouge à épaulettes. Alors, les parents étaient impressionnés de voir que leurs enfants savaient les noms de ces oiseaux-là, mais c'est les oiseaux les plus courants de leur environnement et aucun parent ne connaissait ces oiseaux-là. Pire que ça, c'est une école qui était carrément au bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a un très beau parc qui s'appelle le Récréoparc à Ville-Sainte-Catherine. Ben, presque aucun des enfants n'était allé dans ce parc-là, qui est dans leur environnement, qui est tout près de chez eux.
À côté de ta maison, tu vas trouver une foule d'insectes, plein de même juste des mauvaises herbes, des petites fleurs différentes que tu peux t'amuser à identifier en famille ensuite.
Oui, comme identifier les arbres, moi j'avais ri avec mes élèves, mes élèves avaient 5 ans, donc il y en a un, il dit « c'est un saule pleureur ». Alors, il y a un petit qui s'en va entourer, le pleureur de ses bras. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Bien, il dit, je le console. Sans le pleureur. Alors, lui, il consolait. Et puis, un autre avec une tourterelle triste, un peu la même chose, qu'il a dit qu'il voulait la faire rire parce qu'elle était triste. Alors,
c'est vraiment drôle l'approche avec les âges qui est, comme tu dis, il y a une approche sensible, puis tu as une approche qui est plus de l'expérience.
Oui, puis l'espèce de poésie naturelle, d'avoir des explications à un moment donné, j'aurais demandé de quelle couleur était l'eau. Là, il y en a qui ont dit bleu, il y en a qui ont dit vert, il y en a qui ont dit brun, il y avait vraiment de toutes les couleurs. Alors, on a regardé un verre d'eau, puis là, il y en a un, il dit, c'est transparent. Puis j'ai dit, mais pourquoi alors vous me dites bleu, vert et brun? Puis il y en a une, elle me dit, bleu, c'est la couleur de la toile de la piscine. Mais l'autre me répond, mais non, l'eau, c'est comme un miroir et c'est le bleu du ciel qu'on voit dans l'eau. Et elle est verte quand il y a des arbres autour, parce qu'on voit les arbres dans l'eau. Ils ont toutes sortes d'explications qui sont logiques, mais parfois très poétiques aussi dans leur façon de comprendre le monde, surtout les tout-petits. Plus ils sont petits, plus ils vont sortir des... Quand on les questionne, je pense que ça aussi, c'est la clé. Il faut les questionner. Quand eux nous questionnent, parce qu'on sait comment en tout cas, les 4 à 6 ans, ça questionne. Là, c'est ils ont des questions à plus finir. Puis souvent, ça commence à 3. Donc, je dirais qu'il y a une période où ils veulent tout savoir sur tout. Puis des fois, on est un peu excédé. Puis on dit, je ne le sais pas. Mais il faut chercher avec eux. Puis leur relancer la question. Pourquoi tu penses? Puis, on peut, oui, les diriger vers les vraies réponses, mais ça peut être amusant de les diriger vers des fausses réponses aussi, puis d'essayer de trouver la réponse la plus drôle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il pleut? Oui, ils peuvent te dire c'est parce que les nuages sont trop gros, puis il y a trop de gouttes de pluie, mais ils peuvent aussi te dire c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pleure dans le nuage ou quelqu'un qui est pris dans le nuage et qui pleure. C'est vraiment les questionner, leur retourner les questions et les inviter à chercher. Je pense que cette curiosité-là, elle se met en place très, très jeune. Donc, quand ils te posent des questions et que tu ne connais pas la réponse, trouver des outils pour chercher. Alors, déjà très, très jeune, je sais que Louis, il disait « Regarde dans la tablette. » S'il me posait une question, puis je disais « Je ne sais pas. » »« Regarde dans la tablette, tu vas avoir la réponse. » Et puis, il a un peu raison parce qu'on peut trouver toutes sortes de choses comme ça par Internet. C'est aussi les amener à eux à faire le cheminement. Pourquoi tu penses que, comme avec mon escargot qui était grimpé dans une
feuille d'arbre. De ne pas tout de suite donner la réponse, mais qui cherche un peu de lui-même. Pourquoi?
C'est important qu'ils cherchent et puis qu'ils puissent avoir des comparatifs, c'est-à-dire qu'ils puissent comparer avec quelque chose si on peut les amener à quelque chose de semblable, puis leur proposer des pistes, mais les laisser dans cette recherche-là. Je pense que c'est un petit moteur qu'on part très, très jeune qui ne s'arrête plus. Une fois que c'est parti, la curiosité, ça s'arrête rarement. Moi, j'ai entendu des parents dire j'ai peur qu'il s'ennuie à la maternelle parce qu'il sait déjà lire. Moi, j'ai rarement vu si la maternelle est bien faite et leur offre des opportunités de se développer. J'ai rarement vu des enfants qui s'ennuient. Puis, quand on les met, comme tu dis, le moindrement qu'il y a un carré de gazon, qu'il y a 3-4 arbres, on a déjà fait un pique-nique sur un terre-plein à Ville-Sainte-Catherine. C'était le terre-plein dans le milieu d'une rue en U. On s'est installé, on a fait un pique-nique et il y avait plein d'insectes. Il y avait 3 arbres. Alors, on s'est installé sous 3 arbres. Avec un pique-nique, une vingtaine d'enfants, on a fait beaucoup de curieux dans les fenêtres.
Tu n'as pas besoin d'aller loin. Juste, tu vois, quand tu marches dans la rue avec ton enfant, des fois, on voit des mauvaises herbes qui arrivent à sortir entre les murs et le trottoir. Peut-être, ça peut être juste regarder qu'est-ce que c'est cette mauvaise herbe-là, comment ça se fait qu'elle a réussi à pousser là, à ton avis, à quoi elle sert. Enfin, N'importe quoi peut être un terrain d'apprentissage, en fait, à l'environnement.
Oui, puis qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de souffler sur un pissenlit c'est hallucinant, puis ça donne l'occasion de dire, ben regarde, c'est ces petites graines, puis les petites graines vont se promener, et puis de montrer que la samare, ben c'est la même chose, la samare, elle a développé un hélicoptère pour pouvoir se rendre plus loin que l'arbre pour pouvoir amener sa graine. Donc, ça donne toutes sortes d'ouverture sur toutes sortes de choses. C'est sûr que ça demande peut-être une petite base de connaissances de la part des grands-parents ou des parents, ou de curiosité ou d'émerveillement de retrouver ce cœur d'enfant-là qu'on a tous, d'encourager les enfants vers ça. Puis une fois qu'on leur ouvre la porte, vraiment, là, pas beaucoup de temps mort. Et comme tu dis, les livres, c'est vraiment une mine d'or. Il y a tellement de beaux livres maintenant. Quand je pense à moi, ma jeunesse, où on avait 3 ou 4 livres qui c'était toujours les mêmes et on les relisait, on les relisait, on les relisait. Maintenant, ils ont accès à des bibliothèques. Puis il y a des choses qu'on peut, bon, comme entre autres, s'abonner à une revue nature. Bon, il y a les explorateurs, il y a différentes revues nature qui proposent des activités chaque mois. Alors, chaque mois, l'enfant reçoit à la maison ces petites bandes dessinées avec ces suggestions nature, c'est extraordinaire si on peut se permettre ça. C'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 40 quelques dollars pour avoir 12 numéros. Donc,
Ça
c'est
peut être
très.
une autre option pour les parents s'ils veulent, du coup, qui ont déjà du matériel qu'ils reçoivent à la maison tout près, en fait.
Oui, c'est ça. Puis, des suggestions qui vont nous ouvrir. Il y a aussi il y a des abonnements possibles à Montréal, entre autres, mais il y en a dans plusieurs régions, dans les musées nature, là, pour biodôme, insectarium, jardin botanique. Le jardin botanique, quand on a la carte accès Montréal, c'est gratuit, hein? Ça fait que le jardin comme tel. Alors, si on ne va pas dans les serres, si on va juste dans le jardin, c'est complètement gratuit quand tu as ta carte accès Montréal. Et ça donne accès à beaucoup d'autres choses, dont les bibliothèques, entre autres. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher ça. Il y a des grands parcs. On a parlé du Mont-Royal, on a parlé du parc Angrignon, du parc des Rapides. Il y a le parc René-Lévesque à la Chine. Dans chaque arrondissement, il y a des grands parcs dans lesquels on peut aller.
Même au sein même des municipalités, il y a beaucoup de municipalités qui offrent des choses pour les familles en environnement, des activités. Donc, faut pas hésiter à aller chercher ce qui se passe autour de soi dans sa propre ville.
Le réseau des maisons de la culture, c'est une mine d'or aussi. Il y a toujours des activités pour les enfants, des activités nature ou de théâtre ou de quelle qu'elle soit, mais c'est toujours des choses intéressantes à faire avec les enfants. Et puis, leur suggérer aussi, quand on veut un moment un peu plus calme, il y a des activités d'art qu'on peut faire avec des choses naturelles, c'est-à-dire partir à la recherche d'éléments qui les intéressent, que ce soit des roches, des bouts de branches, des fleurs. Bon, ma petite, dernièrement, il y avait les rosiers sauvages là, qui étaient en fleurs et qui perdaient beaucoup de pétales parce qu'il faisait très chaud. Donc, il y avait beaucoup de pétales par terre sur la rue. Elle ramassait les pétales de rose et elle s'est mise à faire un dessin avec les pétales de rose, c'est-à-dire reproduire quelque chose. Donc, avec les branches, moi, j'ai déjà mis les enfants au défi de faire un nid pour eux, faire comme les oiseaux,
Oh.
ramasser des objets, des branches, des herbes séchées pour se faire un nid assez grand pour les contenir eux. Alors, ils étaient en équipe de 3, ils devaient faire un nid pour 3 et c'est très amusant comme recherche parce
Ça
que
change de la cabane en plus.
oui, puis ils doivent trouver quelque chose qui est plus doux pour le fond, puis qui est plus solide pour le tour. Alors, il y en a qui allaient avec les branches, il y en a qui allaient avec les roches, il y en a qui trouvaient justement des petites mousses, bon, les pollens des arbres là, qui créent une espèce de mousse. Alors, ils s'amusent, ou tu les mets au défi de faire un mandala avec les éléments qu'ils ont trouvés, ou de reproduire. Bon, il y a un très beau livre l'hiver parce qu'il faut penser que aussi l'hiver, on joue dehors. Là, on pense à l'été parce qu'on est l'été, mais il y a un très beau livre qui s'appelait L'ours de neige, et où ce sont des animaux qui aident un ourson qui a perdu sa maman à la retrouver. Alors, il y a une oie, il y a un lièvre, il y a un élan qui aide le petit ours à retrouver sa maman. Mais comme il ne la retrouve pas, il décide de faire une ours en neige pour qu'il puisse se coucher le soir et être en sécurité. Et chacun y va. Alors, le lièvre, c'est ses pattes arrière parce qu'il a des bonnes pattes arrière. L'élan, c'est avec ses bois. La bernache avec ses ailes et tout. Et bon, alors on donnait aux enfants le défi de construire un animal en neige, mais en se servant pas nécessairement de leurs mains, d'une autre partie du corps, ou s'amuser à être un animal. Comment tu ferais pour faire ce parcours-là si tu étais un serpent? Comment tu le ferais si tu étais un papillon? Comment tu le ferais si tu étais un éléphant ou une girafe? Bon, on change, moi je dis on change, la même structure de jeu peut devenir tout d'un coup très amusante parce qu'on a changé le propos. Alors, ça peut être le même parcours où on va tous les jours, mais on le fait d'une façon différente cette fois. Fais-le à reculons. Es-tu capable de faire tout le parc à reculons? À l'envers. Mais là, ça devient un jeu de le faire d'une façon différente, changer l'optique. Je vais revenir sur les livres. Les livres, c'est vraiment une mine d'or. Il y a tellement des beaux livres qui, justement, donnent des explications ou poétiques ou naturalistes de ce qu'il y a autour de nous. Puis, il y a beaucoup de livres aussi de philosophie pour enfants, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions aux enfants. Pourquoi tu penses que, est-ce que ça se peut que, est-ce que, bon, je pense juste à au fameux livre La patate à vélo que tout le monde a déjà lu. Est-ce que ça se peut? Bon, donc, tout le livre, c'est juste est-ce que ça se peut? Et puis, la réponse est toujours non, ça se peut pas, mais ça peut être ça. Est-ce que ça se peut? Est-ce que tu penses que ça se peut que? Et puis, s'amuser à faire la patate à vélo en promenade. Où il y a une dame qui a créé des rallyes aussi. Ça aussi, pendant la pandémie, on prenait beaucoup de marches à l'extérieur, de préférence dans les ruelles pour ne rencontrer personne. Il y avait des rallyes que tu peux trouver un oiseau, un arbre, une fleur, deux bancs de parc.
Tu fais comme une liste des petites choses à trouver, en fait.
Moi, je le faisais souvent avec Louis, donner des filles. Il faut trouver trois bacs bleus. Il faut trouver quatre bancs de parc. Puis on se dessinait notre parcours, trois. Alors, ça lui faisait écrire les chiffres, trois, quatre. Puis quand ils ne veulent pas prendre une marche parce qu'ils disent « Ah non, je vais rester dans la maison », ben là, tu te dis « Ben non, ben regarde, on va aller faire le rallye. » Et là, on sort. Et puis, juste apporter des jumelles, apporter une gourde, apporter un petit contenant pour ramasser des insectes, ça peut être amusant aussi d'avoir un but à la promenade, juste avoir un objectif différent ou un angle différent. Bon, ça peut être simplement trouver tout ce qui est d'une couleur, tout ce qui est jaune. On va trouver tout ce qui est jaune. On a compté les arcs-en-ciel dans les fenêtres pendant la pandémie. C'était un but. On comptait pendant notre circuit combien on avait trouvé d'arcs-en-ciel aux fenêtres. Et puis là, c'était de le trouver le premier, hein, qui allait trouver le premier dans les deux enfants. C'est de changer l'optique des choses et puis de les intéresser aux choses naturelles par nos intérêts à nous. Moi, je disais, j'aime les oiseaux, j'aime les choses que j'aime. J'aime le jardin. Donc, leur communiquer nos passions et puis nos petits trucs aussi. On a des trucs de jardinage et puis faire des essais. Si on met justement le grain de citron, hein, on va le mettre dans de la ouate, l'autre, on va le mettre directement dans la terre. L'autre, on va le faire sécher avant, puis on va voir lequel va le mieux pousser. Et ça ne coûte rien, là, ça coûte un citron, puis on s'en sert du citron. Et les noyaux des autres fruits, voir est-ce que ça pousse. D'expérimenter tout simplement, et puis de donner, d'essayer de trouver dans la construction de leur monde, ce qui est vivant. Moi, je pense que l'attachement au vivant, l'émerveillement devant un coucher de soleil, la forme des nuages, observer les nuages, il y en a pour des heures. On regarde la forme des nuages, on dit « Ah, regarde, il y a un chien là. » Puis là, c'est d'essayer de faire voir à l'autre ce que toi, tu vois. Il y a un oiseau, regarde, là, il y a un oiseau, il y a un lièvre. Bon, ben, c'est amusant de voir les nuages. Ou se demander simplement où ils vont, les nuages. Où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Ils vont se retrouver où, puis ça fait des heures de plaisir à rien faire en fin de compte, à se reposer.
À rien faire, mais où tu apprends en fait, où finalement où l'enfant apprend, expérimente, et comme tu disais, il construit ses racines, il solidifie son tronc pour comme, après faire ses branches et ensuite donner les fruits.
Oui, et puis c'est tout le matériel aussi, un peu, moi j'appelle ça du matériel aléatoire. Moi, les enfants jouent beaucoup, j'ai des boîtes de carton. Alors, ils ont fait des trous pour faire comme des fenêtres. Ils s'enferment dans la boîte de carton. Alors, ça devient une maison, un bateau, un autobus, une boîte assez grande, une plus petite. Et j'ai deux contenants recyclés de crème glacée et de yogourt qui sont pleins des bouchons, les fameux bouchons qu'on ne peut pas mettre à la récupération. Mais il y a des bouchons orange, des bouchons verts, des bouchons blancs, des bouchons jaunes, des bouchons bleus. Alors, il fait des jeux de société. Lui, bon, ces temps-ci, il joue au hockey, hein, c'est le hockey. Et il met deux équipes de bouchons de couleurs différentes. La rondelle, il met des arbitres. Et puis là, on joue au hockey. Alors, il s'amuse avec ça. Il a déjà joué aux échecs. Alors, il n'a aucune idée de ce que c'est les échecs, mais il mettait ces bouchons-là. Il disait qu'on jouait aux échecs. Mon fils est rentré, il nous regardait. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on joue aux échecs. Il dit, comment? J'ai dit, je sais pas trop les règles, mais on arrive, on se comprend. Et en général, il gagne tout le temps, mais
Ça,
c'est
c'est
juste
qu'il s'est
amusant.
amusé, qu'il a expérimenté, en fait, c'est ça?
Exactement. Et c'est le but. La petite, elle, va avoir plutôt des jeux de force et d'équilibre, c'est-à-dire les mettre un par-dessus l'autre pour voir jusqu'à combien elle peut en mettre sans que ça tombe, quelle forme va être la meilleure pour ne pas tomber. Elle est moins intellectuelle, elle est plus dans
La construction.
la construction. Et elle, c'est important aussi, elle avait un peu peur du noir, donc d'être dans la boîte. Puis là, maintenant, elle me dit, ferme le couvercle, mamie, ferme les rabats. Elle veut être dans le noir maintenant parce qu'elle a maîtrisé cette peur-là. Donc, ça, c'est des choses archi simples, mais la nature, c'est un grand champ d'investigation. Puis les mécanismes, on a vu dernièrement, malheureusement, c'était sur Internet, mais quelqu'un qui avait mis comment une libellule sort de l'insecte de base. Et se déploie comme un papillon sort du cocon. Ça les fascine,
Les
les choses
têtards qui deviennent des grenouilles,
les
par exemple.
tétards qui deviennent des grenouilles, toutes les transformations de la nature, mais comment pousse aussi, comment notre jardin pousse, puis comment les fleurs sont pas nécessairement de la même couleur. On a entre autres des piments et des poivrons, et puis là, on a eu la surprise de voir que nos piments sont des piments violets. Et la fleur était violet, mais le piment est violet
OK.
aussi. Alors, de voir que bon, c'est pas tous les poivrons qui sont verts au départ. C'est vraiment des choses amusantes de voir aussi, bon, comme là, on a des concombres qui vont monter. On a du lierre aussi, ben, de la vigne qui pousse sur la maison. Donc, comment on peut la diriger dans l'escalier en entourant puis la faire aller où on veut, en fin de compte. C'est des choses qui les fascinent. L'eau, c'est un grand champ de. Jouer dans l'eau, jouer dans la neige l'hiver, c'est.
C'est leur grand plaisir de
Ah
patouiller.
oui. Puis c'est ça. La petite disait l'autre jour, elle sautait dans l'eau, puis elle dit, elle se retourne vers sa maman, puis elle dit, c'est amusant. Puis tout d'un coup, elle s'arrête, puis elle se met la tête de côté, elle dit, mais ça mouille. Ben, c'est des sensations importantes, comme on met pas assez souvent les enfants pieds nus dans le sable. On a peur, mais c'est quelque chose de fascinant parce que notre peau est sensible partout. Le toucher, ça se fait pas seulement par les mains, ça se fait aussi par les pieds. Et de leur faire sentir, ça peut être faire sentir à l'aveugle avec les mains ou les pieds des textures. Puis de voir simplement l'été, quand on parle des îlots de chaleur, leur faire réaliser la différence entre la chaleur de l'asphalte, du trottoir, du gazon sans les arbres et du gazon sous les arbres pour voir qu'il y a vraiment une différence de température, ben, tranquillement, ça fait prendre conscience des changements climatiques. C'est peut-être aller loin, mais on peut aller jusque-là avec les enfants
Non, au final,
et
c'est pas
aussi.
loin, c'est quelque chose de simple qui peut du coup permettre de développer sur les enjeux plus importants qui englobent la planète, comme tu dis, les enjeux climatiques. Ça peut être une façon d'aborder en douceur toutes ces choses-là un peu.
Ben, j'ai des enfants, je vais te conter une anecdote parce que je la trouve tellement jolie et un peu poétique aussi. À la maternelle, il y a un enfant qui me dit, ma mère dit qu'il faut absolument que je mette la crème solaire parce qu'il n'y a plus de couche d'ozone. Alors, l'autre lui dit, mais c'est quoi ça, la couche d'ozone? Et il y en a une qui répond, est-ce que c'est une couche comme pour les bébés? Là, j'explique, je leur dessine au tableau, à la craie, la Terre et avec la craie sur le côté, parce que pour faire comme un peu nuage, je leur fais la couche d'ozone, puis je leur montre le trou dans la couche d'ozone, puis je leur dis, bien, c'est pour ça, avant, le soleil pénétrait pas aussi fort, mais maintenant, il peut pénétrer plus parce qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Alors, je suis en train de parler, puis les enfants répondent, et j'en sens un qui va derrière mon dos, qui joue dans le tableau. Alors, je me retourne, il est en train de boucher le trou dans la couche d'ozone. Alors, lui, il voulait boucher le trou. Ça fait que je lui dis, c'est gentil, mais ça se fait pas aussi facilement que ça. Alors là, on parlait des moyens. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme humain pour que le trou de la couche d'ozone se rebouche? Et c'est intéressant parce que c'est abordé des sujets complexes. Tout ça est parti de la crème solaire qu'on
devait faire. C'est ça, tout simplement.
Et c'est important de les sensibiliser, mais pas non plus, pas aller au-devant, c'est-à-dire pas leur faire une leçon de changement climatique, mais aller, bon, si un enfant t'amène, il y a des feux en ce moment en Colombie-Britannique, il fait très, très chaud en Colombie-Britannique, bon, s'ils ont entendu ça, ils peuvent avoir des questions par rapport à ça. Je pense que c'est leur répondre jusqu'où ils veulent entendre, c'est-à-dire que pas aller...
Par rapport à leur âge aussi, du coup, tenir compte de leur âge.
C'est ça, tu n'auras pas la même réponse à 3 ans qu'à 5 ans, qu'à 10 ans. C'est pas la même chose selon l'âge des enfants. Puis, ce qui est un bon indicateur, c'est quand ils s'en vont, qu'ils sont plus intéressés ou commencent à jouer à d'autres choses, ben là, tu as trop parlé. C'est fini. S'ils commencent à jouer avec le velcro ou essayer de faire autre chose, ben là, c'est fini.
L'indicateur qui dit que stop, faut arrêter.
Oui, ben on arrive parce qu'il y a toujours des temps indicatifs. Dans La nature et moi, il y a une des activités qui est d'aller chercher des roches et de les observer mouillées ou sèches ou mouillées, parce que c'est complètement différent ce qu'on y voit, pour essayer de comprendre que les roches sont pas toutes pareilles et différentes. Et puis, le but de l'activité, c'était de faire un petit inuchuk avec les roches qu'on a trouvées, qui est la petite sculpture esquimaude, qui est la petite sculpture inuit, qui était des indicateurs de chemin, en fin de compte. Et puis, bon, on voulait leur faire ça. Quand on a fait le lancement du recueil, c'est l'activité que l'éducatrice en service de garde avait choisi pour faire avec son groupe de 3-4 ans. Et ils revenaient avec leur pierre et ils avaient mis ça dans des petits seaux. Et déjà, il y avait des comparaisons. Hey, mon seau est plus lourd que le tien. Moi, j'ai la plus grosse. Moi, c'est la plus petite. Moi, j'ai la plus brillante. Et là, ils se sont mis à regarder leur roche. Et là, toutes les comparaisons. Hey, regarde, moi, il y a du bleu. Moi, il y a du vert. Moi, c'est brillant. Ça doit être de l'or. Ça doit être, en tout cas, il y avait toutes sortes de réflexions auxquelles on n'avait pas pensé en faisant cette activité-là et qui amenait beaucoup plus loin que ce que l'activité avait prévu. Et au bout de 45 minutes avec des 4 ans, là, c'est énorme. Au bout de 45 minutes, l'éducatrice a été obligée de dire, ben là, on va les garder, les roches, là, parce que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt. Allez jouer, parce que là, c'est la période de jeu dans le parc. Et le parc était là, on était dans le parc.
Mais ils étaient à fond sur leurs roches, sur les questionnements, les interrogations.
Oui, puis ils avaient sorti que des seaux de l'eau et des espèces de petits pinceaux à maquillage là, pour nettoyer et des loupes. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de matériel élaboré. Je dirais qu'une loupe, c'est peut-être un bon matériel à acheter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les a fascinés. Elle dit, ils vont garder ça un mois. Tout ce qui est les collections, hein, collection de roches, collection de coquillages, collection de noyaux de fruits, collection de... C'est des choses que les enfants aiment faire aussi.
Tu nous as donné beaucoup d'outils pédagogiques, de petites solutions en tant que grands-parents, justement, pour agir. On te remercie beaucoup. Puis on espère qu'on va réussir à outiller des parents et des familles et des grands-parents pour justement agir aussi en famille.
Et je pense que comme grands-parents, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on apprend autant de nos enfants et de nos petits-enfants qu'eux apprennent de nous. Mais je pense qu'il y a une transmission aussi d'enthousiasme et d'émerveillement qui doit se faire d'une génération à l'autre. Je suis très contente d'avoir pu participer à ça parce que moi, j'adore jouer avec mes petits-enfants et puis leur faire découvrir toutes sortes de choses.
Merci beaucoup, Martine.
Merci, Sandrine.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre organisme? Suivez-nous sur notre site web ou sur notre page Facebook.